Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Marisol Touraine, la ministre de la Santé, a annoncé ce vendredi le retour à l'équilibre imminent des comptes de la Sécurité sociale. Néanmoins, le malaise à l'hôpital n'a jamais été aussi important. Les syndicats de praticiens hospitaliers ont appelé ce lundi les médecins à se mettre en grève. Il y a eu auparavant une grève des infirmiers. Alors si personne ne conteste la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, nombreux sont en revanche ceux qui s'interrogent sur le bien fondé des coupes budgétaires opérées au sein du système de santé français. Et s'inquiète à la fois des efforts demandés au personnel et des conséquences pour la qualité des soins offerts aux malades. Bonjour professeur Grimaldi.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez publié l'hôpital malade de la rentabilité. Je vais reprendre en partie votre titre et je vais vous demander de quoi l'hôpital est-il malade aujourd'hui.
L'hôpital est malade depuis maintenant assez longtemps, depuis qu'on a eu l'idée de vouloir le transformer en entreprise et de le gérer comme une entreprise. C'est-à-dire de faire toujours plus, hein, en disant ben, plus vous allez avoir d'activité, plus vous allez gagner, hein, dans une enveloppe qui, elle, est fermée. Parce que le budget, il est voté, il ne peut pas être dépassé. Ce qui fait que depuis maintenant 5 ans consécutivement, l'activité augmente, les tarifs baissent. Ce qui veut dire qu'on n'a pas embauché un nombre d'infirmières comparable à l'augmentation de l'activité. Ce qui, pour parler le langage de l'entreprise, veut dire que l'hôpital est de plus en plus productif. On n'arrête pas de parler activité, activité, activité. Les conditions de travail se dégradent, notamment chez les infirmières, mais aussi chez les médecins. La démotivation augmente, l'absentéisme augmente, et nous voilà rentrés dans une sorte de cercle vicieux. Il y a eu une grande enquête sur la motivation au travail à la science publique, faite par Ipsos, en février. Ils étaient absolument étonnés du résultat. 60% des médecins et des infirmières, des praticiens hospitaliers, témoignaient d'une forte démotivation.
On va reprendre les choses par ordre, professeur Grimaldi. On va d'abord repartir du malaise des infirmiers avec une lettre d'une infirmière de l'hôpital Saint-Louis à Martin Hirsch, qui dirige donc la PHP, sur la suppression du temps de travail.
Aujourd'hui, les services hospitaliers sont au mieux en surchauffe, au pire en crise. On fait face à un nombre croissant de malades, à la découverte de nouveaux types de cancers. Bref, à une population de plus en plus vieillissante et donc polypathologique et extrêmement fragile. Vous voulez réaliser des économies sur notre dos ? Ce n'est ni éthique ni moral. Nous prenons soin de vos grands-mères atteintes de Parkinson ou d'Alzheimer, de vos oncles atteints de leucémie, de vos enfants atteints de drépanocytose. Nous sommes passablement usés, mais avec votre projet de réforme, nous sommes désabusés. Il y a quelques années, la durée de vie d'une infirmière à l'hôpital était de 10 ans. Aujourd'hui, elle est de 7. Cela vous questionne-t-il ? Vous devriez gonfler le budget hospitalier et surtout nos salaires. Nous, le petit personnel qui avons les mains dans la merde, au sens propre comme au sens figuré. Vous êtes en train de tuer le service public, tuer notre motivation et nos convictions.
Professeur Grimaldi, ce sont donc des paroles assez fortes, avec un malaise, semble-t-il, extrêmement profond.
Oui, parce que quand vous êtes dans une équipe de soins, vous pouvez suivre les patients pendant plusieurs jours, vous restez attaché à vos patients dans votre équipe. Or, aujourd'hui, on est rentré dans cette logique entreprise. L'infirmière, elle va être là lundi, mais pas le mardi. Quand elle revient, elle est plus dans la même unité, elle est transposée dans une autre unité, mobilité. Bon. Donc, vous créez la démotivation. Formation, point très important. Ah ben oui, mais il n'y a pas assez de personnel, donc vous n'irez pas en formation. Donc, on annule les formations. Les personnels, un jour, se retrouvent baignés en absence. Eh ben, je suis seul avec 16 patients. Écoutez, dans notre unité, qui est un grand bâtiment très moderne, l'Institut de maladies métaboliques et endocrinologiques de la Pitié-Salpêtrière, il y a un des cadres, c'est-à-dire ce qu'on appelait les surveillantes avant, un cadre de santé, hein, qui organise le travail des infirmières, qui a eu cette phrase aux infirmières, il faut faire le deuil de soins de qualité. Faites donc ce qu'on vous demande, vous ne posez pas de questions. Quand on en est là, hein. Bon, alors, ensuite, il y a le sentiment d'inégalité, il y a ceux qui vont s'arrêter plus souvent que d'autres, il y a donc les autres qui disent « j'en ai marre » et je m'arrête aussi. Hein. On a, avec cette logique hôpital-entreprise, on a affaibli les équipes. Alors est-ce qui que est c'est le cœur de l'hôpital.
Est-ce que c'est ça qui explique, professeur Grimaldi, que depuis l'an 2000, la France soit passée du premier au huitième rang du classement des meilleurs systèmes de santé du monde? On a perdu 7 rangs, ce n'est pas malgré tout rien.
Alors, ça en fait partie, mais il y a deux grandes faiblesses du système de santé français qui reste un bon système. Hein. Si on pense maladie aiguë, vous avez un infarctus du myocarde, un accident vasculaire, ou le sida ou le diabète, la France reste parmi les meilleurs systèmes du monde. Hein. Là où nous sommes très mauvais, c'est un, les inégalités sociales de santé. Hein. En France, selon la région où vous vivez, selon vos revenus, selon votre statut, vous avez une espérance de vie qui est très différente.
Pour quelle raison? Parce que, a priori, l'hôpital public accueille tout le monde, donc il n'y a pas de raison que l'on soit dans un système où l'offre de soins serait inégale en fonction des revenus, alors même que c'est gratuit.
C'est le grand sujet. On n'a pas construit en France un service de la médecine de proximité. On a un hôpital public et on se plaint de l'hospitalocentrisme. Parce qu'il fait en partie le travail que la ville ne fait pas. Parce qu'on est resté dans un modèle libéral ancien du médecin seul avec son cabinet, qui a une liberté d'installation, qui fait qu'il y a des déserts médicaux. Hein, et qu'il y a par exemple pratiquement plus ou peu de services d'urgence. Donc les urgences de l'hôpital servent de médecin du pauvre.
Alors qu'est-ce que
il y a 18 millions de passages aux urgences.
Mais alors qu'est-ce que le médecin de ville devrait faire qu'il ne fait pas aujourd'hui?
Ah ben, il fait en partie. C'est-à-dire ce qui apparaît, c'est quoi? C'est les maisons de santé pluriprofessionnelles. Aujourd'hui, le grand problème, le grand défi, c'est qu'il y a 20 millions de personnes qui ont une maladie chronique. La prise en charge de ces patients repose sur un travail d'équipe. Médecin, infirmière, kinésithérapeute, diététicien. Or, nous, on a pris un retard considérable. Alors, apparaissent ces maisons de santé pluriprofessionnelles qu'on devrait appuyer, qui est l'avenir de la médecine de ville. Hein? Or, on est très, très en retard. Ce n'est que 10% de la profession.
Pourquoi est-on aussi en retard? Est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement une tendance, puisque c'est ce qui a été dénoncé par les médecins, nationaliser la santé? Et donc, l'hospitalocentrisme, comme vous dites, professeur Grimaldi, consisterait avant tout à faire en sorte que la médecine soit de moins en moins libérale, de plus en plus contrôlée par l'État, avec donc une capacité de mettre en quelque sorte le budget à l'intérieur d'une enveloppe et de tenir ce budget.
Là, il y a une partie de fantasme. L'État contrôle pas vraiment, la Sécu essaye, mais il y a pire, hein, c'est contrôlé par les assureurs privés, le modèle américain.
Bon. Donc, on va
problème,
y venir.
Le problème, c'est que, en gros, on a deux modèles historiques. On a l'hôpital vécu maintenant comme hôpital entreprise, haute technicité, plateforme technique, et puis la vieille médecine libérale travaille en solitaire. Or, les deux modèles ne répondent pas à la prise en charge des malades chroniques, qui est le grand sujet. Hein, de même que qui va de pair avec le vieillissement de la population. Bon, donc il faut travailler en équipe en ville. Or, ça suppose de remettre en cause en partie le paiement à l'acte. Hein, le paiement à l'acte, c'est, je prends le cas du diabétique pour être très concret. 23 euros, ça va être 25. Bon, donc vous voyez le malade 9 fois par an en moyenne pour renouveler l'ordonnance, mais vous le voyez 15 minutes parce qu'à 23 ou même 25 euros. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus. C'est quasiment inutile. Alors que si vous aviez un forfait annuel hein, de 230 euros, l'équivalent, 250 euros, avec ceux qu'il faut voir tous les ans, ceux qu'il faut voir tous les 6 mois, et ceux qu'il faut voir longtemps, plus souvent, le médecin aurait une liberté et améliorerait la qualité des soins. Là, il est condamné au paiement-là, comme nous, à la tarification de l'activité. Plus d'activité, plus d'actes. Donc on a un système fou. On a un système où on vous dit toujours plus, mais en même temps, qui est contraint par un budget. Comment vous faites toujours plus quand le gâteau est le même et que vous faites toujours plus? Eh bien, les parts sont de plus en plus petites, la qualité des soins se dégrade.
On écoute le témoignage d'un chef de service d'un hôpital à Martigues sur cette question du financement.
La finance a pris le pas sur le malade. Alors, vous avez des gens comme ça qui n'acceptent pas. Moi non plus, j'accepte pas.
Vous acceptez pas, mais vous faites quand même passer des consignes justement à ces soignants pour...
Parce que ça serait encore pire qu'il n'y ait plus de réanimation ou qu'ils soient licenciés parce qu'il faut lui réduire les lits ou parce que, voilà, on est dans un dilemme affreux qui est l'aspect financier et l'aspect soignant. C'est incompatible. Au jour d'aujourd'hui, c'est incompatible. c'est un suicide si on ne fait pas ce qu'il faut pour essayer d'optimiser, on va dire, les choses comme ça, le plus possible, la financiarisation de nos actes.
Bon, alors, on a bien compris, professeur Grimaldi, que la finance, pour vous aussi, était votre ennemi. Ça, c'est une chose entendue. Mais si on se fait le défenseur de la finance, qui n'est pas toujours évident, on pourrait vous rétorquer qu'il est important qu'il y ait malgré tout des principes budgétaires sains, que malheureusement, l'hôpital, c'est aussi un poste de dépense. Ça n'est pas que cela, mais c'en est un aussi, et qu'il faut conserver des principes de gestion.
Oui, non, mais attendez, la finance, c'est pas mon ennemi, on a mal compris. La représentation nationale, l'Assemblée, vote un budget. C'est le pays choisit la partie. Et on est maintenant en quatrième position, parce qu'on a dit souvent la France dépense beaucoup. Bon, l'Allemagne dépense un peu plus que nous, les Pays-Bas un peu plus, et les USA beaucoup plus. Bon, on est dans les pays riches, qui dépensent entre 11 et 12% de leur produit intérieur brut. C'est beaucoup. Et personne propose de dépenser beaucoup plus, comme les Américains, 17%. La question, c'est, est-ce que vous êtes dans un système de paiement à l'activité comme une entreprise? C'est-à-dire, comme vous allez au supermarché et la boîte de petits pois, elle vaut tant, vous en achetez deux, et ben c'est deux fois plus. Ou bien vous avez un budget que vous gérez, vous rendez des comptes, mais vous avez un budget. Or, la médecine évolue, les malades sont pas semblables. Alors, il y a des choses qui sont techniques. Vous pouvez dire, effectivement, une cataracte ambulatoire, une séance de dialyse, ça vaut tant. Mais la prise en charge du malade cancéreux qui change en permanence, si on vous dit, ben, votre tarif, c'est l'hospitalisation, ben, vous allez hospitaliser. Moi, il y a des malades que je pourrais prendre en ambulatoire. Ah, mais j'ai pas de financement. Alors, on les met dans un lit. Et le directeur dit, encore plus d'activité, encore plus d'activité. Donc, ce qui se passe, c'est que la finance dirige la médecine.
Mais ça, c'est aussi un manque de souplesse, puisque si vous pouviez les prendre en ambulatoire et que vous n'en avez pas le droit, ça veut dire que vous n'avez pas, à l'échelle de l'hôpital, la possibilité de prendre des décisions.
À l'échelle du pays, vous avez des tarifs, et votre directeur vous dit, mais je voudrais faire ça en ambulatoire, mais mon cher ami, c'est pas financé. Donc le directeur, il regarde la rentabilité. On a mis l'hôpital dans une logique de rentabilité, et pas dans une logique, vous avez un budget à gérer.
Vous avez évoqué des coûts et effectivement, la France demeure un pays parmi les pays développés où la santé n'est pas aussi chère, par exemple, qu'aux États-Unis. Et ce qui est intéressant également, c'est l'évolution. C'est-à-dire que si on regarde entre 1995 et 2014, le coût par personne de la santé est passé en dollars, puisque c'est l'OMS qui donne ces chiffres, de 2 700 $ à 5 000 $ en France, de 3 780 $ à 9 400 $ aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, on a obtenu moins d'un doublement. Aux États-Unis, on est à 2,5 fois plus. Pourquoi la santé a-t-elle à ce point vu ses prix s'accroître, professeur Grimaldi?
Deux raisons fondamentales. Premièrement, vous avez une augmentation des maladies chroniques avec deux causes essentielles, le vieillissement de la population, deux, l'environnement. Donc un taux de diabète qui augmente de 0,4% par an.
Alors,
par exemple.
Le vieillissement, on comprend bien, l'environnement?
L'environnement, l'obésité par exemple. L'obésité, c'est, vous savez que l'espérance de vie diminue aux USA, pas augmente, diminue aux USA deux fois de suite en raison de l'obésité et de ses complications. L'environnement, c'est aussi la pollution atmosphérique et ses conséquences. Bon, c'est le tabagisme, où en France, par exemple, là, on est en échec complètement jusqu'à présent.
Pour quelles raisons?
Les raisons de pourquoi on échec en France, une des raisons, c'est que les cigarettiers ont quand même encore la vie assez belle. Alors, on dit qu'on va enfin augmenter les taxes. C'est 18 milliards de coûts de santé, le tabac et l'alcool, contre 11 milliards de taxes.
Alors là, vous avez cité deux facteurs. Est-ce que l'industrie pharmaceutique n'a pas également
sa part facteur,
dans donc, l'inflation importante des coûts de santé?
Absolument. Premier facteur, donc, l'épidémie de maladies chroniques. 20 millions de personnes en France, dont 11 millions sont pris à 100% pour la sécurité sociale. Les maladies chroniques, c'est 60% des dépenses de santé. Centrées sur donc 11 millions de personnes pris à 100% par la sécurité sociale. Et puis le deuxième facteur, ce sont les progrès médicaux, qui sont réels et importants. Dans le cancer, on est en train de connaître une révolution. Mais dans beaucoup de maladies, le diabète insulino-dépendant, dans quelques années, aura un pancréas artificiel. On est en route. Donc une maladie qui date de millénaires, qui en 1922 on a découvert l'insuline, c'était des piqûres tous les jours, bientôt ça sera une maladie qui sera maîtrisée. Donc ça a un coût, alors là le problème est compliqué, par le fait que ces coûts dus à l'industrie et aux dispositifs médicaux sont parfois très exorbitants.
Et oui, parce que le coût des médicaments est notamment un enjeu au sein de la campagne électorale américaine pour la présidentielle. En France, finalement, on en parle assez peu. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte de rente ou en tout cas un abus de position dominante chez certains laboratoires, professeur Grimaldi?
Et ça, c'est évident. On pourrait croire que le prix d'un médicament ou d'un dispositif médical est calculé en fonction de son coût de production, plus toute la recherche et développement, étant entendu que pour un médicament qui réussit, il y en a 100 qui échouent et qui ont nécessité des coûts. Mais ça n'explique pas une disparité des coûts hallucinante. Les médicaments de l'hépatite C, vrai progrès, hein, guérison d'une maladie qui était responsable de cancer du foie, de cirrhose, etc. En France, pour 3 mois de traitement, 41 000 euros. Aux USA, 90 000. En Égypte, moins de 1 000. Parce que le coût est calculé en fonction de la disponibilité du pays à payer. Ajoutons qu'en France, c'est complètement opaque. 41 000, c'est le prix officiel. Mais il y a une négociation secrète avec la Sécu, dont on ne connaît pas les termes, qui fait que le prix est peut-être 30 000. Sur quel argument? Sur l'argument, en France, on prescrit beaucoup, donc vous allez nous faire des rabais. Bon, à ce petit jeu-là, chaque État face à une multinationale est complètement affaibli, il peut pas réellement. Donc là, on est dans un vrai problème. Comment on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas une rente, l'industrie pharmaceutique se concentre complètement et a des bénéfices qui sont celles de l'industrie du luxe.
Donc, ce qui veut dire que cette industrie n'a pas du tout été moralisée à vous suivre,
Elle n'est pas moralisée, elle n'est surtout pas transparente. Et l'État participe de cette opacité. C'est-à-dire que, en France, je vous dis, on dit 41 000 le prix du Solvadi pour l'hépatite C. En fait, c'est beaucoup moins que pensent les Allemands, que pensent les Pays-Bas, que pensent chacun va négocier dans son coin.
L'État et les médecins, d'après vous, quelle est leur responsabilité dans cette situation?
Alors, les médecins ont une autre responsabilité, c'est-à-dire que la règle éthique, pas la règle économique, pour les médecins, la règle éthique, c'est le juste soin pour le patient au moindre coût pour la collectivité, parce qu'on est dans un système solidaire. Donc, à chaque fois qu'un médecin prescrit, il devrait dire, est-ce que j'ai choisi le juste soin pour le patient, tout ce qui est nécessaire pour lui, au moindre coût. Exemple, en France, les médecins sont très hostiles en général, pas tous, mais au générique. Sans aucune raison scientifique. Donc, il y a un des médicaments du cholestérol qui n'est pas génériqué, qui est le plus prescrit en France. 30% des prescriptions, mais 3% en Allemagne. Donc, on n'est pas assez, mais là, on a quand même beaucoup de progrès. Les médecins se préoccupent maintenant des coûts de santé.
Professeur Grimaldi, on vous retrouve à 8h20. Vous serez rejoint par Frédéric Valtoux, qui est président de la Fédération hospitalière de France. On reviendra sur le malaise de l'hôpital en France et puis également sur le déficit de la sécurité sociale